On a commencé une série qui est sur l'Épître de Jacques. L'Épître de Jacques nous parle beaucoup sur des choses pratiques. On a vu plein de points. Il y en a des fois que c'est un point qui est encourageant, c'est bénissant. Puis d'autres fois, c'est des points qu'on étudie dans cette Épître-là sur notre comportement, notre manière de parler, notre manière d'agir. Puis Dieu a permis que ce gars-là, Jacques, qui est le frère de Jésus, qui a écrit cette lettre-là, il voulait écrire aux chrétiens pour leur donner comme un mode de vie, pour leur dire que être chrétien, c'est un mode de vie. Puis, c'est pas pour devenir pire qu'on est devenu chrétien. C'est pour devenir meilleur. Pour qu'on devienne à être parfait. Comme Jésus est parfait. Mais c'est pas nous qui va nous rendre parfait. On vise la perfection, on veut changer, on veut faire des efforts. Mais quand le Seigneur investit dans ta vie, puis il commence l'œuvre de transformation, c'est là que ta vie change, puis que tu es libéré de certaines affaires. Il t'enlève des mauvais traits de caractère, des dépendances, il te guérit, il te change, il te transforme, puis il t'amène à penser, à être renouvelé dans tes pensées pour connaître un nouveau mode de vie produit par Dieu dans ta vie. Puis là, ce soir, le point qu'on continue à regarder, on est dans Jacques au chapitre 3, on va étudier le verset 6 à 7. Ça, on en a parlé un peu la deux semaines, quand on a parlé sur la langue, c'est encore sur la langue ce soir. Il veut nous parler sur la langue, pas nécessairement le morceau de viande, la langue, mais qu'est-ce qu'elle peut faire dans notre bouche, les choses bonnes ou pas bonnes. Plus souvent, on veut parler des celles qui sont pas bonnes pour pouvoir changer cela. Puis, dans l'étude qu'on va regarder dans ces deux versets-là, qu'on va lire presque maintenant, là, on va voir que les mots sont lourds, sont pesants, sont même graves. Les mots que Jacques parle à propos de la langue. Le titre du message, c'est « Le plus petit des membres qui met un feu destructeur dans la vie. » La langue, c'est notre plus petit des membres, mais qui met un feu destructeur dans la vie. Puis c'est pour nous apprendre à faire attention. Nous, on doit apprendre à contrôler ça, mais on va voir ce soir que par nous-mêmes, on n'est pas capable de contrôler cela. On a besoin de l'aide du Seigneur. La langue, c'est une source de souillure, de méchanceté que nul ne peut dompter. Faut pas penser qu'on est capable par nous-mêmes d'y arriver. Vous allez voir qu'est-ce qu'il dit de ce passage-là dans Jacques 3, 6, le verset 6 et 7. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer, l'étang de feu. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Wow! Ça, c'est des mots qui sont forts pour nous dire la gravité de ce qui peut sortir de notre bouche, comment ça peut être mauvais. Puis, s'il nous dit ça, je suis sûr qu'il parle en connaissance de cause, parce que moi, j'écoute ce qu'il dit, puis je vais dire, c'est vrai que la langue est pleine de méchants. Parce que je l'ai vécu dans ma vie, puis je l'ai entendu aussi de la bouche de d'autres personnes. Ici, on met le doigt, en parlant de la langue, là, on met le doigt sur le pire problème des humains. Si ça paraît pas, là, mais quasiment tous les foyers sur la terre, s'il y a eu des chicanes, c'est à commencer avec des choses qui se sont dites. Que ce soit dans un foyer ou que ce soit à grosse échelle comme entre des pays, des fois il y a des guerres qui ont commencé entre des pays juste par des choses qu'un dit puis que l'autre répète, puis l'autre dit quelque chose, puis la guerre pogne, puis là le monde s'entretue. Juste par ce qui peut être prononcé de notre bouche, ça peut amener une destruction tout le long de notre vie. Puis si on continue à penser là-dessus, il y a des gens, sans s'en rendre compte, toute leur vie, ça a été mal dans leur vie à cause qu'ils n'ont pas été capables de dompter leur langue. C'est comme s'ils ont enflammé tout le cours de leur existence. C'est ce que Jacques est en train d'expliquer. Puis s'il en parle de cette façon-là, c'est parce qu'il veut nous faire réaliser pour qu'on puisse dire, wow, là, faut faire attention. Jacques explique que la langue, c'est un feu qui brûle le cours de notre vie. Un feu, là, quand tu rouvres la bouche et tu dis une mauvaise affaire, l'autre, il entend une critique, un chiolage, il entend. Là, l'autre, si, il pogne en feu. Là, c'est de la répétition. Là, c'est des bombardements. La chicane pogne. Puis il y a une destruction. Puis des fois, toute ta vie va être enflammée à cause de la langue. Si on aurait appris à pas rien dire, ça aurait peut-être étouffé le trois quarts de nos problèmes. Je dis pas que c'est toujours de notre faute, là. C'est pas une question que c'est notre faute. C'est peut-être un événement que l'autre a fait, mais qui nous fait réagir, puis là, on en remet. C'est comme si quand on rouvre la bouche, c'est du gaz qui sort, c'est comme si on jette du gaz sur le feu. C'est ça rempire, puis ça rempire. C'est ce qu'il essaye de nous expliquer. En nous disant au verset 6, que la langue, c'est aussi un feu, puis c'est le monde de l'iniquité. L'iniquité, c'est le mal, la méchanceté. Puis, il est en train de dire que la langue, principalement ce petit organe-là, sert à alimenter le mal dans ce monde. L'humain, il est capable d'en faire beaucoup, et aussi le diable qui nous inspire, puis on va le voir, que beaucoup de ce qu'on dit, excusez, vient du diable. La langue est placée parmi nos membres, excusez, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la Géhenne. La Géhenne, c'est le lac de feu, le lieu de perdition. Je vais vous lire un commentaire biblique par des théologiens, deux petits commentaires sur la langue, sur ce passage-là. On va voir que pourquoi que la langue tire son inspiration de la Géhenne. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? La langue est elle-même comme un feu. Ça, c'est un théologien qui a expliqué ça. Satan se sert de notre langue plus que tous les autres membres de notre corps. C'est rare que Satan va se servir de notre bras. De temps en temps, peut-être, il va nous inspirer à vouloir donner une claque ou un coup de poing à quelqu'un, ou de le pousser, de se battre. Mais il se sert plus souvent de notre bouche. Il dit, la langue est embrasée par la Géhenne. Il dit, il lui ramène ça, lui, Satan, il met le feu sur notre langue. Si nous ne la maîtrisons pas, elle corrompra toute notre être tout entier, puis elle embrasera le cours de l'existence. Parce que quand tu parles en mal, puis tu mets du feu de même, puis tu alimentes la méchanceté, tu te sens pas en paix intérieurement. Trois quarts du temps, puis même 100% du temps, tu sais que tu as mal agi, tu sais que tu te sens coupable, puis j'aurais pas dû dire ça, j'ai oublié, tu sais, j'ai manqué l'occasion de me taire, toutes les excuses, puis les choses peuvent venir, à cause qu'on le sait que c'est pas correct. Puis plus qu'on parle pour alimenter le feu, plus qu'on devient tout croche. C'est comme si on s'enflamme nous-mêmes, on se souille nous-mêmes qui nous dit, ça nous fait pécher. Parce que quand tu te mets à dire des insultes, tu te mets à blasphémer, tu te mets à parler de choses pas belles, des choses impures, on va voir quelques versets tantôt là-dessus. Là, le théologien continue en disant, autrement dit, si nous n'assujettissons pas notre langue, là, si on n'apprend pas à la contrôler, elle nous conduira à la destruction. La langue opère de grands ravages parmi les chrétiens. Pas juste parmi les chrétiens, le monde entier est aux prises avec ce problème-là. Mais les chrétiens qui veulent vivre l'amour de Dieu, on veut vivre dans l'amour, on veut vivre dans l'unité, on veut vivre dans la communion fraternelle, dans l'amour fraternel. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tu vas atteindre ça, Mais si tu maîtrises pas ça, tu vas tout détruire ce que tu essaies de bâtir. Tu peux être pendant des mois à faire des efforts pour essayer d'améliorer les affaires, puis dans une fraction de seconde que tu as dit quoi, tu viens de démolir tous tes efforts que tu as faits pendant X temps. Un enfant de Dieu a beau mener une vie de piété exemplaire, là, qui est un homme qui prie puis qui cherche à louer le Seigneur, puis à servir le Seigneur dans tous les domaines de sa vie, mais s'il ne maîtrise pas sa langue, elle réduira ses efforts à néant. Les péchés les plus courants parmi les chrétiens sont ceux de la langue. Est-ce qu'on est capable de dire Amen?
Amen.
Oui, c'est vrai. Mais c'est pas qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'on veut pas cela. Mais si on en parle, si Jacques en parle, si on étudie ça, c'est dans le but qu'on fasse attention, puis qu'on demande l'aide au Seigneur pour s'en sortir. Sinon, on peut faire du ravage puis détruire notre témoignage à mesure qu'on avance. Un autre commentaire biblique sur ce passage-là, il dit l'enfer, en parlant de l'étang de feu, le lieu de tourment éternel, là, a opéré de nombreux dégâts par le feu de la langue, plus que les hommes ne l'imaginent généralement. Toutes les fois que la langue des hommes est impliquée dans des voies coupables, elles sont placées sur le feu de l'enfer. Parce que le diable sait que c'est une faiblesse pour les humains. C'est à travers les temps, ça a toujours été ça, depuis le début de la création. La langue alimente des querelles, des chicanes, des divisions, des guerres, comme j'ai dit tantôt. L'ennemi se sert des humains. Il injecte des idées, puis là, nous autres, on les prononce, puis après ça, le feu est pogné. On s'est salis nous autres mêmes en le faisant, puis on a détruit peut-être des réputations de personnes, ou on a détruit des amitiés, on a détruit peut-être des familles, on a détruit notre entourage, notre environnement. David, le roi David, il parle dans un psaume que lui a prié pour être délivré des hommes méchants. Puis quand il parlait des hommes méchants, il parlait des hommes qui utilisent le langue pour faire du mal. Puis ça date de 3000 ans d'histoire, ce verset-là qui a été écrit, 3000 ans. Puis c'est encore d'actualité, c'est encore comme ça aujourd'hui. Dans le psaume 140, les versets 1 à 3, ça dit, ça c'est un psaume, ça dit au chef des chants, c'est un psaume de David. « Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent, puis ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. » Ça nous parle des gens qui cherchent la guerre. Oh, ce n'est pas nécessairement des gens qui ont des épées, des lances, puis des boucliers, puis armés avec en soldats. C'est pas nécessairement habillés en soldats, les gens qui cherchent la guerre. Chercher la guerre, c'est ça commence par chercher le trouble, chercher en bon canadien-français, chercher la chicane, chercher les divisions, à diviser. Il voit deux personnes qui ont de l'air d'être amis, puis lui, il veut prendre l'amitié pour l'avoir juste pour lui tout seul, puis il va dire des paroles contre l'autre pour essayer de diviser, mais il est en train de faire une guerre. C'est des guerres, il y a des petites guerres et des grosses guerres. Mais du monde méchant qui font la guerre puis qui servent dans leur langue, il y en avait 3000 ans. Puis que l'apôtre Paul nous dit, David, le roi David, qui est un roi d'Israël, celui qui écrit ce psaume-là, lui il dit qu'il priait l'Éternel puis demandait à Dieu de le délivrer des hommes méchants. Parce que quand une personne fait ça, la personne peut-être elle réalise même pas qu'elle est en train de faire du mal avec sa langue, mais la Bible elle dit que c'est un homme méchant. C'est par méchanceté que le monde fait ça, qu'il s'en rende compte ou pas. Puis imaginez-vous quand c'est les chrétiens qui tomberaient dans ce piège-là, puis qui seraient eux-mêmes l'instrument du diable pour amener cette méchanceté-là, puis de répéter des choses qu'ils doivent pas, ou d'enflammer la vie des autres par des paroles méchantes. La Bible parle aussi de d'autres sortes de paroles qui sont pas de Dieu, là. C'est pas juste la méchanceté au point de diviser, là, mais elle nous parle des paroles de mensonge, qu'on peut dire, des paroles impudiques, comme des jokes sales, des jokes, tu sais, les jokes à deux sens, puis ça touche toujours à des choses un peu, mais des choses de sexe, plus en direct, ou des impuretés qui ne doivent pas être dans la bouche des chrétiens. Un chrétien n'est pas appelé à avoir dans sa bouche des paroles impudiques, impures ou de mensonge. Jésus le dit juste au niveau du mensonge. Il dit, celui qui ment, il est inspiré par le diable. Il a pour père le diable. Parce que le mensonge, ça vient du diable. Puis Dieu, dans un de ses 10 commandements, il le dit de ne pas mentir. Fait que quand quelqu'un, un chrétien, se livre au mensonge, il est en train de laisser sa langue le souiller. Pourquoi que ça le souille? Parce que c'est un péché, mentir. Fait que quand que tu mens, même si c'est pour bien faire une farce, pour essayer de te défendre d'une situation, t'es en train de pécher. Tu te souilles. Puis en plus, l'autre, il pense que t'es vrai, puis tu le bourres de menterie, mais que, ça vient aussi de le mêler, puis de tout, faire partie de ce qui cause du trouble. On est mieux de marcher dans la vérité. C'est ça qui est le plan de Dieu. Dans Éphésiens 5, 3, 8, ça nous dit que l'impudicité, aucune espèce d'impureté, même la cupidité, là, étant dit, pensant qu'à l'argent, pas vouloir rien que l'argent, ne soit même pas nommée parmi vous. Ça ne doit pas faire partie du langage d'un chrétien, les choses impures. Ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanterie, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Si on veut parler, là, si on veut ouvrir la bouche, là, le mieux, c'est dire des louanges au Seigneur. Merci Seigneur pour telle affaire, merci, demain t'es sûr que tu ne diras pas de bêtises. Car sachez-le bien, il n'y a aucun impudique, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Faut pas penser qu'on peut être menteur puis ou être impudique par notre bouche puis de compter des jokes de sexe à job pensant tout le monde rit. Oui, tout le monde rit, mais t'es en train pas juste de te souiller puis d'enflammer la vie des autres par de cette corruption-là. T'es en train de te mettre à dos Dieu. Parce que tu pêches. Faut pas qu'on ait ce genre de conversation-là. Il dit que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu va venir sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ça. Dieu, il est sans horreur la méchanceté qui peut sortir de notre bouche. C'est pour ça que Jacques en parle. Il s'est enflammé par la géhenne. C'est le monde des ténèbres qui va faire qu'une personne y répand toutes sortes de corruptions par sa bouche. Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer la planète. C'est extraordinaire. Jacques, il dit, Jacques 3, 7, « Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées puis ont été domptées par la nature humaine. » Ça, c'est depuis le début de la création, parce qu'au début de la création, Dieu avait dit à Adam et Ève, Dieu a béni Adam et Ève, puis il dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons, sur les oiseaux et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu a donné à l'homme de dominer la planète, c'est ce qu'il est en train de faire, puis là, il en domine tellement qu'il est tout en train de la démolir. Mais il avait donné la capacité de la dominer, puis c'était même un ordre de le faire, mais il fallait qu'il le fasse sur le bon côté. Mais, malgré que la capacité de dominer toute la création, il n'est pas capable de dominer ce petit morceau de viande-là. C'est ce qu'il dit Jacques. Mais il n'y a pas Dieu, il n'a pas donné la capacité de dominer sa propre langue. Dans Jacques, il dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Fait que, on peut être capable d'entreprendre bien de grandes choses, mais il faut avouer. Si on veut s'en sortir, là, il faut avouer qu'on n'est pas capable C'est comme un alcoolique anonyme. S'il n'avoue pas qu'il n'est pas capable de s'en sortir, s'il n'avoue pas sa faiblesse, puis qu'il ne confesse pas qu'il a besoin de l'aide de Dieu pour s'en sortir, il n'aura pas l'aide parce qu'il ne la demandera pas. Il faut que, premièrement, tu réalises ta faiblesse. C'est vrai que je ne suis pas capable de m'en sortir. C'est vrai que j'en dis des bêtises. Je ne suis pas capable de la dominer. Je ne suis pas capable de la dompter. Puis il dit, aucun homme qui est capable. Pensez pas qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de se dompter. À tout moment, il peut sortir des mauvaises paroles de votre bouche. Oui ou non?
Amen.
Pas amen dans le sens, c'est pas ça qu'on veut qu'il se passe, mais oui ou non, oui.
Non, on n'est pas capable de dominer.
Ouais. Il faut s'avouer, parce que là, si on ne s'avoue pas, on ne pose pas de test, on n'aura pas l'aide de Dieu pour s'en sortir. Comment peut-on se débarrasser de cette langue empoisonnée? Il dit qu'elle est pleine d'un venin mortel. Venin, là, ça vient du serpent, le venin. Puis le serpent, c'est qui? C'est le diable. Notre langue est pleine de paroles qui viennent du diable. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir de cette langue empoisonnée? Dans Luc 18, 27, Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes, il est possible à Dieu. C'est Jésus qui le dit. Si tu n'es pas capable, si tu n'y arrives pas, puis il dit, il n'y a aucun homme qui va y arriver. Donc, c'était déjà prévu dans le plan de Dieu qu'on demande de l'aide à Dieu pour s'en sortir. Parce qu'il dit, tout ce qui n'est pas capable de faire, mais Dieu, il est capable de le faire. Fait qu'on peut aller à lui pour s'en sortir. Là, on peut dire un amen.
Amen.
Jésus a dit que sans lui, on peut pas rien faire. C'est encore bien plus pire, pas juste l'idée de contrôler notre langue. Tout changement dans notre vie ne peut pas être fait sans l'aide de Dieu. Faut apprendre à lui faire confiance, à lui remettre les choses, puis à s'attendre à ce qu'il vienne faire les choses. Puis il va le faire parce qu'il est fidèle, il compte pas de menterie. Dans Jean 15, 5, Jésus a dit, « Je suis le cep. » Le cep, c'est le pied d'un plant de vigne. Puis il dit, « Nous, on est les sarments. » Les sarments, c'est les branches d'une vigne. Puis nous, quand on a accepté Jésus, on a été greffés au cep. On est connectés après Jésus. Jésus, c'est le pied, puis nous autres, on est la branche qui est connectée. Puis là, la sève qui vient du pied, qui vient de Jésus, peut couler en nous et nous faire porter du fruit. On est des arbres qui portent du fruit. Et il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pas qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, c'est pas ça qu'il voulait dire. Je suis capable de me lever le matin, je suis capable d'aller travailler, gagner ma paye, puis je suis capable de retourner chez vous. Ma femme est capable de me faire à souper. On est tous capables de faire des affaires. Mais quand il dit « sans moi, vous pouvez pas rien faire », il parlait pas des choses de même, il parlait des vraies affaires, comme changer notre vie. Tu peux pas changer ta vie par toi-même. C'est qu'on est capable de faire des petites affaires, mais les vraies affaires à être faites, c'est juste le Seigneur qui peut les faire, comme, entre autres, changer notre vie, puis nous donner le caractère de Jésus, les pensées de Jésus, les paroles de Jésus, puis aimer le monde comme Jésus aime le monde. Si tu veux y arriver, c'est pas par tes forces que tu vas y arriver, c'est par l'aide de Dieu dans ta vie. C'est là qu'on prend conscience qu'on a besoin de la nouvelle naissance. Ça, la nouvelle naissance, c'est quelque chose que Dieu veut donner à celui qui se convertit au Seigneur. La minute que tu donnes ta vie au Seigneur, tu lui demandes pardon pour tes péchés, il te pardonne. Mais il fait plus que juste te pardonner. Il te donne le Saint-Esprit qui rentre dans ta vie. Quand que le Saint-Esprit rentre dans ta vie, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en toi. Puis quand Dieu habite en toi, c'est lui qui vient faire les choses en toi. C'est lui qui va te changer. C'est lui qui va changer tes pensées. Il va changer tes paroles. Fait que si on avoue qu'on n'est pas capable, puis qu'on demande l'aide du Seigneur, il va le faire. Parce que c'est lui qui va le faire. Et c'était déjà dit qu'on ne serait pas capable de le faire. Le seul moyen pour y arriver, c'est l'opération du Saint-Esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit opérer dans notre vie pour qu'on puisse y arriver. Dans Romains 8, 13, c'est le dernier verset pour le partage. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Voyez-vous? Il faut apprendre à marcher avec le Seigneur. Puis le Seigneur va nous rendre capables d'y arriver. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour les choses que tu nous parles à propos de la langue, comment est-ce que c'est vraiment un poison animé par le mal, le diable. Seigneur, on ne veut plus pécher par la bouche, ni dans nos pensées, ni dans nos paroles, ni dans nos agissements, mais pour ce soir, je te prie que tu viennes nous changer à ce niveau-là. On le confesse, on l'avoue qu'on n'est pas capable de changer par nous-mêmes. Il y a toujours de quoi qui sort par notre bouche qui est pas de toi, qui est pas beau, puis c'est méchant, puis c'est destructeur. Je te demande pardon, Seigneur. Puis je te demande de nous purifier par le sang de Jésus. Puis je te demande aussi de nous, par ton Saint-Esprit, de faire mourir cet homme-là qui est destructeur. Mets en nous, Seigneur, des paroles de louange, d'adoration, pour te rendre la gloire et que te revins. Mets en nous, Seigneur, des paroles d'encouragement, des paroles de bénédiction pour les gens qui nous entourent. Mets en nous des prières pour prier, pour intercéder, qu'on puisse avoir des paroles de vie qui procurent la vie aux gens. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire dans nos vies.